Bonsoir. La situation sécuritaire reste préoccupante dans la partie est de la RDC. Au sud Kivu, des violents combats ont fait au moins 17 morts mercredi dernier entre des rebelles burundais opérant dans les moyens plateaux de Kabéré en territoire d'Ouvira et des miliciens proches du pouvoir au Burundi. En Ituri, 7 miliciens Mai Mai, Simba et leur leader ont été tués mardi au cours d'une offensive lancée par les FRDC à Dembélé en territoire de Mambasa. Au nord Kivu, environ 20 personnes ont été tuées en l'espace de 3 jours. Quelle analyse faire de cette insécurité permanente dans l'est de la RDC? Et pour en parler, je reçois Monsieur le ministre Justin Bitakwira. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci. Vous êtes ministre du Développement Rural, membre du comité stratégique du Front commun pour le Congo FCC et également notable de la province du Sud Kivu. Maître Marc Avota, bonsoir.
Bonsoir. Merci pour nous avoir associés à cette émission.
Bonsoir, vous êtes avocat et notable de la province du Nord Kivu. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani et aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au sud Kivu, des violents combats ont fait plusieurs morts mercredi dernier entre des rebelles burundais opérant dans les moyens plateaux de Kabéré en territoire d'Ouvira et des miliciens proches du pouvoir au Burundi. Les deux camps étaient soutenus par des groupes armés locaux Mai Mai. Le bilan provisoire faisait état de 17 morts côté rebelles burundais et un blessé grave du côté de la milice burundaise Imbonerakure. Des sources militaires des FARDC n'ont donné aucun détail sur ces combats. Le point avec vous, Fiston Goma.
C'est depuis tôt vers 4 heures du matin que des rebelles burundais parmi lesquels Forebu, Roi de Tabar et FNL ont été surpris dans leur position par des tirs nourris à la bombe et à la mitraillette. Les combats commençaient à Kabéré à 20 km à l'ouest de la cité de Sangé se sont étendus au cours de la journée vers les localités voisines de Mubere et Mulenge. Selon les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise de Sangé, Bernard Kadogo Tondo, certains déplacés ayant fui ces combats sont arrivés à Sangé et à Kigoma. Ils affirment avoir aperçu depuis hier mardi dans leur village des hommes lourdement armés vêtus en uniforme militaire de l'armée burundaise et assimilés aux miliciens Imbonerakure. Ces miliciens auraient réussi à traverser par infiltration la rivière et la plaine de la Ruzizi avec le soutien des groupes locaux Mai Mai Kijangala avant de se diriger vers les moyens plateaux. Les rebelles burundais de leur côté sont appuyés par un autre groupe local Mai Mai Kiyebe. Pour l'instant, les motifs de ces affrontements sur le sol congolais n'est pas clair, souligne la même source. Contacté à ce sujet, le commandant du secteur opérationnel Sokolade au sud du Sud Kivu, le général David Rugai Sengabo, promet d'éclairer l'opinion à ce sujet. Entre-temps, les rebelles burundais mis en déroute se sont retirés vers le haut plateau de Kiriama, à l'ouest de la zone de combat, précise d'autres sources militaires dans la Ruzizi. D'Ouvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Kapi.
Merci Fiston Goma Mayabala. Passons au Nord Kivu où des affrontements ont opposé hier les miliciens du groupe Nyatura d'un certain Booza et ceux du groupe Mai Mai à PCLS de janvier Kalaïri. C'était dans la localité de Kaïra dans le Massissi. Bilan au moins 11 morts. Bernard Nyangi pour le reportage.
Ces affrontements ont eu lieu entre 3h du matin et 8h locales hier mardi dans le village Nyabiara et Luala, localité Kaïra, dans le groupement Bachali Mokoto, affirme les sources de la police déployées dans la chefferie de Bachali. Surpris par ces combats, alors qu'ils étaient encore au lit, les habitants locaux ont commencé à fuir dans plusieurs directions et c'est là que les 4 civils auraient reçu des balles perdues, affirme ces sources. Elles ajoutent que, du côté des miliciens, 7 auraient été tués et 7 autres blessés. Jusque-là, il reste difficile de savoir qui de Nyatura Booza et APCLS de janvier contrôle la zone. Après ce combat, la société civile de Bachali affirme que nombreux habitants ayant fui ce combat auraient pris la direction de Mianja. Pour ces sources, depuis environ 2 semaines, les localités Kaïra et Kalungu dans cette partie de Bachali restent théâtre des affrontements à répétition entre les groupes armées belligérants. Le porte-parole de la 34e région militaire affirme que des opérations sont déjà en cours depuis 2 jours pour reprendre le contrôle de la zone. Goma, Bernard Nyangui, Radio Kapi.
Merci Bernardin Nyangui. D'autres combats, toujours dans le Massissi, opposent depuis le début de cette semaine les FRDC au groupe armé FDDH, une faction de Nyatura. Bilan, 5 civils tués et plusieurs autres grièvement blessés. Ces affrontements se déroulent au centre de la localité Luki et ses villages environnants, en secteur Osso-Banyungu. Justin Bitakwira, vous êtes ministre du Développement Rural, membre du comité stratégique du Fonds commun pour le Congo FCC et également notable de la province du Sud Kivu. Comment, de manière générale, pour commencer, expliquez-vous la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC?
Oui, Rongawan, laissez-moi d'abord saluer tous les auditeurs de Radio Kapi qui nous ont suivis il y a belle regrette ou la dernière année. Mais laissez-moi également féliciter quand même le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a honoré sa parole. Et en même temps, profiter de l'occasion pour féliciter le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et non seulement que je viens fraîchement de l'Est du pays, j'étais en campagne électorale, j'ai eu l'occasion de faire fini, j'étais en pleine campagne électorale à Ouvira. Le village dont vous parlez de Moubere, c'est non loin de mon village, c'est à peu près entre 3 et 5 kilomètres de mon village de Katala. Donc je sais ce qui s'y passe. Et en même temps, j'ai pris de l'occasion pour saluer mon ami Kavota, qui va débattre avec nous dans cette émission. C'est un ami, un frère. Et du côté de Nord Kivu, je crois que nous pouvons éclairer la lanterne. Et d'abord, je dois dire ici que il y a un adage dans mon patois qui dit que c'est la souris domestique qui invite la souris sauvage dans une maison.
C'est-à-dire?
C'est la souris domestique qui invite la souris sauvage dans une maison. C'est-à-dire, la situation insécuritaire dans notre pays est d'abord occasionnée par nos propres citoyens ou nos propres concitoyens. Parce que depuis 1996, quand s'est déclenchée la guerre de la Israël, il est né un mouvement de résistance qui s'appelait Mai Mai à l'époque, qui effectivement avait comme objectif contrer ce qu'on entendait que c'était des étrangers venus du Rwanda, du Burundi, de la Somalie, de l'Éthiopie, qui étaient venus envahir la République démocratique du Congo. Et spontanément, peut-être sans que personne ne lance le mot d'ordre, ce mouvement est né spontanément. Ils se sont appelés Mai Mai. Et au fur et à mesure que la FDL avançait, la FDL progressait, et d'ailleurs la FDL doit comprendre qu'effectivement, et avant d'affranchir un territoire comme Ouvira ou un territoire comme Fizi, avant d'aller dans le Katanga, et avant d'aller jusqu'à Bukavu, Bukavu, Goma et autres, ils n'ont eu que la plus grande résistance dans cette partie, dans ces deux territoires-là, Fizi et Ouvira, de ces Mai Mai. Et quand le président Kabila a pris le pouvoir, le 17 mai 1997, il s'est installé à Kinshasa. Certains de ces Maïmaï, effectivement, ont rejoint le mouvement. Mais je sais qu'à partir du 27, je me rappelle très bien, que c'était à partir du 27 juillet, si j'ai bonne mémoire, c'est à partir du 27 juillet, quand le musée Laurent Désiré Kabila a pris l'option que ceux qui l'accompagnent, plus particulièrement le Rwanda, pouvaient rentrer chez eux et on payerait la facture, la plupart de ces Maïmaï sont venus adhérer à l'idéologie de Mzé Laurent Désiré Kabila. Et au cours des années, je dis bien au cours des années, certains de ces groupes armés qui se sont sentis frustrés sont devenus comme des bandits de grand chemin. Je vois par exemple à Moubere dont vous me parlez ici, parce qu'il s'agit du Sud Kivu ici, et dans la plaine de la Russie particulièrement. Il y a des jeunes gens qui étaient aussi dans l'armée régulière qui se sont repliés pour aller organiser des groupes armés.
Monsieur le ministre Bitakwira. Oui, vous avez toujours la parole, mais il y a d'autres sources qui semblent avancer le fait que cette facture non payée, qui serait non payée par l'AFDEL, serait l'une des causes principales de cette insécurité persistante dans l'est de la RDC.
Non, personnellement, je ne crois pas. Parce que ces mouvements locaux, parlons seulement des mouvements locaux, c'est-à-dire les groupes armés locaux. Je crois particulièrement, parce que vous devez retenir qu'en dehors de groupes armés qui sont vers le Chabunda vers Mwenga, qui d'ailleurs ont rabaissé presque leurs armes. Je vois même dans le Kalehe, vers Kalonga et ailleurs, le plus grand banditisme persiste dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu, et persiste peut-être dans Fizi avec le Bouba et Koutoumba. Cette facture dont a parlé M. Laurent de Zekabia n'a rien à voir. Et maintenant, c'est pourquoi alors, quand vous me parlez qu'il y a eu des affrontements entre les groupes armés burundais, le SNL, contre l'Imbonerakure. L'Imbonerakure, c'est une organisation burundaise. Donc ce sont des militants du parti au pouvoir au Burundi. FDD. Ce sont des jeunes gens. Comme il y en a ici au sein du PPRD, ailleurs, au Burundi, il y a des jeunes gens qui sont du parti au pouvoir.
Et qui se sont affrontés sur le sol congolais.
Ils se sont affrontés sur le sol congolais.
Comment vous expliquez ça?
Je vais y arriver. Parce que effectivement, nos frontières sont devenues tellement poreuses. Je dis bien poreuses. Je vois l'espace qui sépare le territoire d'Uvira avec le Burundi, qui arrive jusque vers Kamanyola, en frontière avec le Rwanda. Il y a d'abord un conflit séculaire aujourd'hui entre le système politique burundais et le système politique rwandais. Donc, ceux qui soutiennent Kurunzinza au Burundi, ce sont les jeunes gens qu'on appelle Mbonekure. Il y a ces opposants qui s'appellent FNL, Front National pour la Libération du Burundi. Certains, après le coup d'État raté contre Kurunzinza, il y a cela 2 ans, beaucoup de Tutsis burundais se sont exilés au Rwanda.
Monsieur le ministre,
Monsieur
le ministre, souffrez que je vous arrête à ce niveau. Je reviens à vous pour d'autres détails. Maître Marc Avota, vous êtes avocat et notable de la province du Nord Kivu. Vous avez suivi le ministre Bitakwira évoquer quelques causes, notamment le fait que nos propres citoyens soient complices de ces assaillants, de ces miliciens. Il a aussi évoqué la porosité des frontières pour vous. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme cause de cette insécurité persistante dans l'est de la RDC?
Merci, M. Alain. Je souhaiterais qu'avant que je ne réponde à votre question, je commence aussi par présenter mes voeux les meilleurs à nos auditeurs. On est encore au mois de janvier, c'est la première participation à cette émission au cours de l'année 2019. Et même mes voeux les meilleurs à tous nos collaborateurs, particulièrement à son excellence, monsieur le ministre Bitakwira, qui est frère et un ami personnel, mais également à notre analyste qui est aussi co-débatteur.
Dismas
Kitenge. Et si je dois revenir à votre question, il est clair, la situation sécuritaire à l'est du pays connaît un chemin périlleux. Un chemin périlleux parce que, comme vient de le dire monsieur le ministre, et même lorsque j'ai suivi attentivement votre éditorial d'entrée dans l'émission, j'ai réalisé que le tableau qui est peint, le tableau sécuritaire peint par vous-même au niveau de Radio Okapi, et même, monsieur le ministre, en tout cas, on est en face d'une situation catastrophique. Une situation catastrophique, mais qui s'explique par bien de raisons. Bien sûr, monsieur le ministre évoque cette complicité de certains Congolais avec les groupes armés et les milices, mais au-delà de cette complicité, il y a certains comportements. Il y a certains comportements qui sont à décrier aussi bien dans les chefs, la plupart de dirigeants, et dans les chefs aussi de la communauté internationale. Si vous voulez, je voudrais parler brièvement de la situation au Nord Kivu, parce que pour illustrer un peu ce que je viens de dire tout à l'heure.
Maître Kavota?
Oui, je vous en prie.
Oui, je vous en prie, allez-y, vous dites qu'il y a des comportements à décrier, tant de la part des dirigeants, c'est-à-dire du gouvernement, que de la communauté internationale. Est-ce que vous pouvez en donner quelques détails?
Alors, s'il faut que je revienne, par exemple, sur le contexte au Nord Kivu, spécialement, et peut-être un peu à Ituri, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés au terrorisme par les ADF. Les ADF, c'est un mouvement terroriste qui, seulement au cours de ce mois de janvier, a opéré des massacres, des grands massacres, des massacres de grande ampleur à Mavivi, dans les territoires de Beni, où ils ont tué 12 civils, et à Maïsafi, dans le même territoire, où ils ont tué 8 civils et enlevé 7 enfants entre le 7 et le 8 janvier. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, pendant que nous sommes ici à la pleine émission, je venais d'apprendre ce soir que le même terroriste a essayé de fusiller quelques agriculteurs dans la contrée du Kibibi, où c'est dans l'espace Mayangos, à l'est de la ville de Beni. Et vous avez parlé de ce qui prévaut dans les territoires de Massissi, où les miliciens Niatura, APCLS, et là on n'a pas parlé de FDLR qui continue à endeuiller l'ensemble de la population et plusieurs villages qui se vident à la suite de leur activisme. S'il faut parler du territoire de la province de l'Ituri, où vous avez, où il faut rappeler ce qui a prévalu il y a peu à Djougou, où une attaque meurtrière a ciblé les FADC dans la localité de Largou, où la territoire de Mambasa, c'est le miliciens Simba, où on a salué une action de FADC qui a consisté à neutraliser un de leurs leaders, à savoir Manu Mangalibi et ses complices. Mais on réalise qu'il y a quand même à décrier. Ce que je voudrais décrire ici, c'est cette manière, ce comportement qui consiste à banaliser à quelque sorte la situation par un groupe important de dirigeants, ce que je dis, et par certains de la communauté internationale. Si vous considérez ce qui se passe ici, vous pouvez vous poser la question, combien reconnaissent qu'à partir de 2000, la République est confrontée au terrorisme. Combien au gouvernement, ils prennent cette thèse, ils la défendent et ils mobilisent la nation, la communauté internationale pour que, ne fût-ce que ce terrorisme auquel on est confronté, on arrive à l'endiguer avec l'effort, avec la solidarité internationale des États de la région, même des grandes puissances qui ont l'expérience avérée à combattre le terrorisme.
Maître Kavota, s'agit-il selon vous des mauvaises stratégies qui sont appliquées ou c'est tout simplement une insécurité entretenue?
Non, je ne dirais pas une insécurité entretenue, mais le laxisme de la plupart d'autorités et de laisser faire, ou je dirais même une sorte de banalisation du problème. Vous êtes passé à revue la situation à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, où le ministre lui-même reconnaît la présence de ces groupes armés à la fois étrangers, des milices, mais qu'est-ce qui est fait pour mobiliser la nation tout entière, pour mobiliser l'ensemble de la communauté internationale, pour qu'on endigue ce phénomène?
Merci.
Le ministre qui était au gouvernement, en tout cas, il peut dire qu'il sait combien ceux qui se battent pour ce problème, il sait combien au Parlement qui se battent pour ce problème, et donc c'est cette banalisation qui fait que le problème perdure.
Maître Kavota, souffrez également que je vous arrête le temps de donner la parole à Dismas Kitenge. L'on revient à vous, Dismas Kitenge. Vous êtes président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani, et aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Banalisation de la situation, laxisme, laisser-faire tant du gouvernement que de la communauté internationale. Dismas Kitenge, est-ce que vous partagez ces causes?
Merci beaucoup. D'abord, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir également à mes co-débatteurs. À mon sens, j'ai entendu l'excellence Monsieur le ministre Bitakwira, également l'honorable. En partie, les éléments qu'ils ont donnés sont des éléments qui entrent dans la compréhension du phénomène de l'insécurité persistante à l'est du Congo. Mais à ce qui me concerne, j'ai essayé d'analyser le phénomène et je retiens qu'il y a 6 éléments importants qui peuvent expliquer cette insécurité. Il y a d'abord l'incapacité de l'État congolais à protéger ses citoyens et à assurer la sécurité des personnes de leurs biens dans cette partie du pays qui est en proie
à cette insécurité depuis très longtemps, déjà vers la fin du règne de Mobutu et aussi dans les différents régimes qui lui ont succédé. Deuxième élément, rapidement, c'est la complicité des autorités congolaises, principalement les forces de sécurité et de défense dans la livraison des armes à ces groupes armés, dans l'exploitation des ressources qui se trouvent sous les territoires sous contrôle de ces groupes armés. Troisième élément, complicité également des pays voisins de la République démocratique du Congo dans la partie Est. N'ayons pas peur de nommer ces pays, le Rwanda, l'Ouganda, qui ont joué un rôle important dans la sécurisation de cette partie Est, la circulation des armes. Il y a aussi des armes qui proviennent du Rwanda, qui proviennent de l'Ouganda, qui tombent entre les mains de ces groupes armés. Il y a aussi le trafic des ressources, le trafic illégal, le trafic des ressources naturelles qui sont sous le contrôle de ces groupes armés et qui sont commercialisés dans ces pays voisins. Quatrième élément, à mon avis, c'est la nécessité d'auto-prise en charge et d'auto-défense des populations locales contre les exactions des forces armées de la République démocratique du Congo, d'autres groupes armés locaux, mais surtout aussi des armées étrangères. Et ça rejoint en partie ce que l'Excellence avait soulevé dans la genèse de ces groupes armés depuis l'époque Mobutu, Afdel, ainsi de suite. Cinquième élément important, c'est l'impunité des chefs de groupes armés locaux et des auteurs des graves violations des droits humains et du droit international. Vous le savez, là, très rapidement, j'ouvre une parenthèse et je vais fermer. C'est devenu comme... Il y a une prime à l'impunité. La plupart des chefs de groupes armés qui tuent, qui pillent, finissent à être considérés dans les tables de négociations politiques et on leur accorde des postes politiques. C'est devenu comme une culture parmi lesquelles, pour accéder au pouvoir, il faut avoir aussi pris les armes. Et ça, c'est cette impunité-là, et cette prime politique donnée à certains chefs de groupes armés favorise la persistance de ces groupes armés. Et enfin, à mon avis, il y a la faiblesse des réponses internationales contre la neutralisation de ces groupes armés à travers, par exemple, maintenant, la brigade d'intervention spéciale des Nations Unies. Nous avons une brigade qui a un mandat spécifique de neutraliser les groupes armés, avec ou sans l'appui du gouvernement congolais. Et nous connaissons que cette brigade a du mal à faire ce travail seule. La plupart, hormis quelques cas du M23, la brigade d'intervention spéciale des Nations Unies ne veut qu'avoir l'appui du gouvernement congolais. Donc l'ensemble de six éléments, à mon avis, explique aujourd'hui la persistance de ces groupes armés et les difficultés que nous avons aujourd'hui, que comme conséquence, ce sont les graves violations des droits humains. Bref, c'est les populations civiles qui payent le lourd tribut de cette insécurité-là.
Dismas Kitenge, vous avez évoqué comme troisième élément la complicité des pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. J'ai posé la question au ministre Bitakwira si ces deux pays n'étaient pas en train de se payés à cause de cette facture non payée dans l'aide qu'ils ont apportée à l'AFDEL, notamment pour accéder au pouvoir en RDC, comme le pensent beaucoup d'analystes.
En partie, c'est un élément, c'est-à-dire il y a eu des accords politiques qui ont été signés par des chefs rebelles de l'époque, par exemple l'AFDEL, qui avait comme ses alliés le Rwanda, l'Ouganda, et dans cette partie, et que le fait que ces accords qui n'ont jamais été totalement éclaircis ont permis qu'ils entrent dans notre pays, et le fait qu'ils se sont brouillés avec les personnes ou les chefs de ces mouvements qu'ils avaient soutenus a fait qu'en sorte ils entretiennent encore une autre rébellion qui avait pris naissance en 1998 et qui avait envahi également l'est du pays avec toujours cette fois-ci, je dirais même pas la complicité, avec le soutien clair, explicite de ces pays-là qui ont fait la guerre chez nous. Et rappelez-vous qu'à Kisangani, ils se sont battus. Donc, c'est clair qu'il y a des accords dits secrets et des accords ouverts de partenariat ou de soutien tout simplement entre les chefs militaires et les chefs politiques de la RDC avec les dirigeants de pays voisins tels que le Rwanda et l'Ouganda qui ont permis que leurs armées arrivent. Et il n'y a pas que l'AFDL, nous avons connu encore le phénomène Laurent Kunda, hein, Kunda qui a été la rébellion de Moutebou si consort, qui a bénéficié de l'appui militaire de ces pays voisins.
Merci Dismas Kitenge. Monsieur le ministre Justin Bitakwira, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Kisangani.
Dans la province de la Tchopo. L'un des grands défis à relever pour le nouveau gouvernement est la restauration de la paix non seulement à l'est du pays, mais aussi au centre. Pour y arriver, la piste du dialogue semble être la meilleure car tous les miliciens ne veulent pas au hasard. La plupart d'entre elles s'adonnent à ces pratiques pour tantôt vilipender leurs droits, tantôt protester contre quelque chose qui ne semble pas bien tourner. Ce n'est que par le dialogue qu'on peut espérer rétablir la paix en ce moment où le pays a été divisé suite à une campagne électorale séparatiste. Où certains leaders n'hésitent pas des jours de leurs influences tribales ou ethniques pour vilipender les autres. En se mettant sous l'arbre à palabre pour écouter les points de vue des uns et des autres, on peut facilement découvrir la plaie et enfin arrêter l'hémorragie que de privilégier la répression militaire qui risquait d'activer plus de tensions et généraliser la crise.
Monsieur le ministre Bitakwira, nous avons beaucoup évoqué au premier tour des tables les causes. Il est temps que l'on parle des solutions. Et parmi les solutions, Freddy Bossimo de Kisangani propose un dialogue. Quel est votre avis?
Oui, je dois d'abord dire ici que je crois que le peuple congolais, nous qui avons battu campagne, nous avons compris que le peuple congolais avait soif de changement. Et ces changements aujourd'hui, nous allons les vivre demain, à partir de la prestation du serment du président, du nouveau président de la République élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le président Kabila a tenu parole du respect de la Constitution. Il va certainement remettre les symboles du pouvoir au nouveau président de la République. Et ces changements, je pense que ça appelle à la conscience nationale. À la conscience nationale pour dire effectivement que les changements politiques qui viennent de s'opérer dans notre pays, ça devient sous forme d'un changement bicéphale où l'opposition aujourd'hui va prendre la présidence de la République et l'ancienne majorité qui s'est émiée en front commun pour le Congo va diriger le gouvernement et pourquoi pas l'Assemblée nationale ou le Sénat et quelques gouverneurs de provinces. Et moi, je pense effectivement que ces élections renforcent la cohésion nationale pour dire que ceux qui se sentaient lésés en étant en dehors de la gestion du pays, aujourd'hui, une bonne fraction va contribuer aux problèmes qui se posent au pays. Et moi, je crois qu'ici, c'est la République qui a gagné. Je dis bien, c'est la République qui a gagné. Et il faudra qu'on mette ensemble toutes les intelligences de la République pour que les grandes questions qui se posent pour la survie de notre pays doivent être mises sur la table pour qu'on essaie de se poser la question, autant que La Fontaine le disait, les animaux malades de la peste, pour qu'on se pose la question effectivement. Peut-être que l'ancien régime, qui aujourd'hui va être remplacé par un nouveau système, mais ce nouveau système aussi persiste en étant la force qui aura la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale et va certainement former le gouvernement, il faudra que ces deux forces se rallient et qu'on mette sous la table la vraie question de l'insécurité dans notre pays.
Monsieur le ministre, par exemple, faut-il dialoguer avec ces groupes armés tant locaux qu'étrangers ou il faut carrément les éradiquer par des opérations militaires?
Non, il faut un assainissement sécuritaire dans notre pays. Et qu'on demande à tous ceux qui se prévaudraient être réellement congolais d'arrêter de jouer les jeux de l'ennemi et d'arrêter de jouer les jeux des étrangers. Que ce soit du côté burundais, que ce soit du côté rwandais, que ce soit du côté de l'Ouganda. Il faut que tout celui qui se prétend être congolais arrête de continuer à être le complice de nos voisins, effectivement, non seulement à nous convoiter, mais ses voisins doivent comprendre que le Congo va vivre une nouvelle ère politique. Et que le nouveau président de la République, effectivement, qui est obligé de cohabiter avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, que nous devons tous comprendre que l'armée doit refléter la cohésion nationale. Je l'ai dit et je le répéterai. Et même dans les conseils des ministres, j'ai eu l'occasion de le dire, que à quoi joue Kinshasa? Parce que je me rappelle, je l'avais dit encore, comme je l'ai dit en conseil des ministres, j'avais dit que il y a certains groupes armés. Je prends particulièrement le cas de Yakutumba, dans Fizi, qui voulait occuper Uvira et peut-être aller jusqu'à Bukavu. Et je donne raison à Gavota, un ami à moi que je connais très bien, par rapport à son engagement patriotique, pour dire que normalement, il devrait être hors de question que l'armée congolaise à l'est du pays ne soit dirigée que par les ressortissants ou les commandants ou les généraux qui sont d'origine de l'est.
Donc il faudrait les changer.
Pas seulement les changer. Il faudrait que l'armée qui est à l'ouest du pays s'occupe de l'insécurité à l'est du pays, mais... et que ceux qui sont de l'est du pays viennent à l'ouest.
Merci, merci, monsieur.
Nous puissions consolider.
Merci, monsieur le ministre. Je reviens à vous pour la conclusion. Maître Marc Avota, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Lubumbashi.
Ils installent moins depuis Lubumbashi. L'insécurité qui se réduit dans la partie orientale du RDC est une conséquence logique de la mauvaise politique du gouvernement congolais en matière sécuritaire. Je crois que la RDC est souveraine seulement sur le plan politique. Sur le plan sécuritaire, elle a déjà cédé sa souveraineté à ses miliciens. Je conseillerais au gouvernement congolais de revoir sa politique sécuritaire, car la première mission régalienne d'un État est de sécuriser sa population et ses biens.
J'ajoute, Maître Kavota, cette réaction d'Ignace Ndala de Kolwezi qui dit « Je pense que nous devrions revoir et définir nos relations avec les voisins dont les territoires servent de base arrière à nos ennemis. Il n'est pas possible d'envisager un quelconque décollage tant que ce coin distribuera la mort sans inquiétude. Il y a des solutions diplomatiques proposées et militaires. Maître Kavota, pour vous, la solution durable, c'est quoi ?»
Alors, je rejoins à partir de certaines préoccupations soulevées par les auditeurs, notamment par le de Lubumbashi, en disant qu'effectivement, il nécessite que nous puissions redéfinir notre politique de la défense nationale. Parce que il est vrai que si on n'arrive pas à adapter, à mettre à jour notre politique de défense, si on n'arrive pas à adapter notre stratégie de gestion face aux menaces qui nous guettent, nous risquons effectivement de naviguer à vue et de continuer à déplorer cette situation. Il faut bien que l'insécurité, l'instabilité à laquelle on fait face ici vient de durer plus ou moins des décennies. En tout cas, nous n'avons pas encore vécu une situation de paix à l'est du pays. Et cela peut résulter effectivement de la façon dont nous concevons notre politique de la défense nationale. Mais au-delà de ça, il faut quand même relever, aux côtés de ce que M. Dismas Kitenge a dit, il faut relever la convoitise des ressources naturelles par non seulement les certains pays qui nous entourent, mais aussi par certaines grandes puissances, parce que on a vu des milices se créer par-ci, par-là, mais naturellement, là où il y a des minerais à exploiter et des minerais qui les exportent, et il y a des gens qui les aident pour recevoir ces minerais, pour les trafiquer, et donc cela ne doit pas passer inaperçu. Mais aussi, je voudrais que l'opinion sache qu'on est et on doit prendre cela au sérieux, l'émergence de ce terrorisme qui est en train de s'observer à l'est du pays. On n'est pas très sensibilisé, on n'est pas très informé, ou peut-être qu'on ne met pas très d'attention sur le problème, mais le terrorisme est déjà certain à l'est du pays, et dans la stratégie des terroristes, c'est aussi alimenté de groupes armés, de groupes qui opèrent comme des satellites, pour que l'attention sur eux ne soit pas la plus grande, pour mettre en sécurité les forces de sécurité et de défense, et la République, dans sa stratégie nouvelle de la défense, devrait attirer son attention sur ce problème. Mais aussi, et c'est là que je voudrais citer par rapport à ces questions, c'est notre politique au niveau de la région, au niveau de la nation, d'appliquer certains outils au niveau régional pour l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous savez que l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé par au moins 11 pays, dont la plupart, l'ensemble des États de la région de Grand Lac, mais le degré d'application, il n'est pas vraiment observé dans les chefs des pays qui nous entourent. Des criminels, une fois chassés de la RDC, ils vont se cacher, ils sont autorisés par les pays voisins, et ils reviennent, et parfois, les États voisins ne sont pas motivés à aider la RDC à se stabiliser, parce qu'ils tirent profit effectivement de la déstabilisation du pays. Ça contribue. Bon, bien sûr, il profite aussi de la porosité des frontières, comme son Excellence, monsieur le ministre l'a dit. Mais cela ne doit pas, on ne peut pas avoir de.
Merci.
On ne peut pas se justifier pour la porosité des frontières.
Merci, maître Marc Avota. Je reviens à vous également pour la conclusion. Dismas Kitenge, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Kinshasa.
Maître Bouchir est debout de Kinshasa. L'insécurité dans la partie est de la RDC n'est pas une matière nouvelle. Cela montre clairement que dans cette partie du pays, regorge une grande quantité de miel et qui pousse les groupes nationaux et étrangers à faire de bonnes affaires. Comment expliquer un groupe d'armes étrangers de se coaliser avec ces nations pour semer le chaos? Il y a à boire et à manger. Nous demandons aux autorités nouvellement élues de prendre cette fois-ci les choses au sérieux afin de terminer les aventures de ces groupes armés. Car dit-on, la paix est une absence de troubles et de guerres dans un pays.
Dismas Kitenge, quelle impulsion le nouveau président de la RDC devrait-il donner dans la résolution de cette question particulièrement, selon vous?
À mon avis, il faut que le gouvernement, le nouveau président élu et le gouvernement qui sera mis en place renforcent les capacités et les moyens d'action des forces de sécurité et de défense de la République démocratique du Congo. Ça veut dire ceci, il faut que, par exemple, l'Agence nationale des renseignements, puisque la guerre commence d'abord par le renseignement, puisse avoir le moyen de faire leur travail correctement. Quand on voit nos forces de sécurité, l'Agence nationale des renseignements, la DGM et le consort, n'ont pas de moyens. Quand on voit l'armée, notre armée n'a pas de moyens, le budget consacré à ces forces de sécurité et de défense est faible. Non seulement, quand je dis renforcer les capacités et les moyens, ça ne veut pas dire tout simplement leur donner les moyens matériels, logistiques et financiers nécessaires, mais il faut aussi la formation, augmenter la formation professionnelle. Deuxièmement, faire participer les populations et les communautés locales aux solutions de ces problèmes. Il faut que le voix des populations qui sont des victimes de ces exactions de groupes armés, de l'insécurité, soit entendue par les dirigeants, que les populations et les communautés locales soient réellement des partenaires du gouvernement, des institutions de la République. Troisièmement, il faut amener le gouvernement à coopérer sincèrement avec la communauté internationale. Il ne faut pas faire la politique d'autriche. D'un côté, on dit qu'on a invité les forces des Nations Unies à être là, mais de l'autre côté, on ne leur facilite pas la collaboration, puisqu'il arrive des fois que les autorités congolaises ou d'autres soient complices de ces forces-là qui nuisent aux populations. Quatrièmement, il faut que la communauté internationale puisse doter les forces des Nations Unies des troupes capables de faire la guerre contre les groupes armés, telles que les forces Artemis en Ituri, qui ont réussi dans un temps record à neutraliser les groupes armés qui étaient là et qui semaient la désolation des populations. Voilà, à mon avis, les quatre axes prioritaires des nouvelles institutions qui seront mises en place et qui peuvent contribuer efficacement à résoudre ces problèmes d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo.
Et sur le plan diplomatique, Dismas Kitenge, au niveau de la sous-région, qu'est-ce qui devrait être fait selon vous?
D'après moi, au niveau de la diplomatie régionale ou sur-régionale, il faut qu'on ait, dans la diplomatie, il faut avoir aussi les forces de conviction. La République démocratique du Congo La diplomatie n'exclut pas une force armée capable aussi de neutraliser, de dissuader. Donc, on doit utiliser aussi la capacité de notre armée dans la diplomatie. Ça, c'est le premier point. Donc, on négocie, mais entre-temps, on montre de quoi on est capable. C'est-à-dire, on ne va pas dans les négociations en position de faiblesse pour supplier les États à retirer les troupes. Mais non, nous devons aller en position de force. Aller en position de force, c'est d'avoir aussi les moyens de force dans les négociations. Puisque dans les négociations, peuvent apparaître aussi à des moments comme une dispute. Dire, bon, ok, si vous ne voulez pas ça, voilà ce que je fais. Or, la République démocratique du Congo va souvent dans les négociations avec le pays voisin en position de faiblesse, en train de supplier, de prier, de faire ceci. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, au niveau sous-régional, nous le savons que il faut avoir aussi le soutien des puissances internationales fortes. Ce qui manque à la République démocratique du Congo par rapport à d'autres pays de la région.
Dis-moi ce qui t'engue.
Par exemple, un soutien de... Oui,
oui, en guise de conclusion, parce que l'émission est en train de se terminer, vous avez cité parmi les causes l'impunité dont bénéficient les chefs des groupes armés locaux notamment. Vous avez parlé de prime à l'impunité. En guise de conclusion, faudrait-il pour vous que la justice fasse son travail et que le gouvernement arrête toute forme de négociation, par exemple, avec ces groupes armés?
Oui, c'est-à-dire, il faut, à côté de la justice, il faut qu'il y ait d'abord la force de l'armée. La force de l'armée couplée maintenant par la justice. C'est-à-dire, c'est lui qui ne veut pas désarmer, c'est désarmer, c'est lui qui ne veut pas démobiliser ses troupes, donc c'est la justice. Il faut avoir le moyen de l'arrêter. Quand nous parlons de la justice, la décision de la justice doit être là. Ça veut dire, il ne faut pas non plus d'abord privilégier les mesures d'amnistie. Il faut vraiment traduire en justice. Mais traduire en justice, pour pouvoir traduire, il faut arrêter. Et ensuite,
merci,
traduire en justice, condamner et vraiment donner l'exemple. Mais la justice passe aussi par les mesures,
merci,
de réparation en faveur locale.
Merci Dismas Kitenge. Monsieur le ministre Justin Bitakwira, en guise de conclusion, si j'ai compris votre précédente intervention, et ça veut dire que la situation sécuritaire fait partie des défis majeurs qui attend le nouveau président de la RDC, en guise de conclusion.
Oui, c'est pas une question seulement du nouveau président de la République, c'est une question nationale et c'est une question en même temps du président de la République et du gouvernement qui sera mis sur pied. Mais ce que je dis est que, effectivement, par exemple, dans le nord, dans la province du Nord Kivu, s'agissant de Beni ou de Butembo, il s'agit d'un terrorisme déclaré. Et nous allons demander à ce qu'effectivement la cohésion entre le président de la République et le gouvernement qui sortira du Front commun pour le Congo, il faudra que ce soit le Front commun pour le Congo qui gagne. Quand j'appelle Front commun pour le Congo, c'est pas seulement cette plateforme présidé par le président Joseph Kabila, mais il faudrait que les Congolais qui défendaient la cause de nos ennemis s'alignent aux côtés de ceux qui défendaient la cause congolaise. Et moi, ici, en terminant, je dois dire qu'effectivement, pour les forces de la communauté internationale, en parlant de la MONUSCO, nous n'avons plus besoin d'une MONUSCO quantitative. Nous avons besoin d'une MONUSCO quantitative.
Merci,
au lieu de 70 000 hommes, au lieu de 7 000 hommes, nous pouvons avoir besoin de 500 hommes.
Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Maître Marc Avota, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC?
Alors, je crois que c'est un défi majeur à relever et ça, j'exhorte un nouveau chef de l'État qui sera investi bientôt, de considérer que la paix et la sécurité, c'est la priorité pour les populations de l'Est. Et il faudrait qu'ils considèrent qu'il y a nécessité de renforcer l'autorité de l'État, et cela passe par le renforcement des capacités de la police, de l'armée, et même des services de sécurité et de l'appareil judiciaire.
Merci Maître Kavota, c'est par vous que nous terminons cette émission. Polydor Basunga, Guy Maté, Dona Madimba, Pelekipela Mondo m'ont aidé à préparer, à présenter cette émission. Moi, c'est Alain Rungmouchige. J'ai les coordonnées également. Merci et bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.